c'est vrai que moi j'ai un espèce de logiciel anarcho-punk, tu vois. Mais j'ai toujours le sentiment que la fabrication d'idoles ouvrait la voie à la dévotion et donc une certaine forme d'aliénation. Projeter ses désirs, ses rêves ou sa révolte sur une figure idéalisée, c'est souvent vivre par procuration. Ce rapport n'est jamais neutre, il met en place une relation de pouvoir très asymétrique où l'admiration est loin d'être innocente et peut devenir un outil de contrôle, de canalisation des affects et des imaginaires. Le côté qui emprisonne quelque part aussi dans cette relation, tu vois.
Mais je pense que oui, mais c'est comme dans tout rapport. Enfin, je veux dire, les gens qui n'ont pas, qui sont pas fanatiques d'une star, de Céline ou quoi, mais par exemple qui sont dans des relations toxiques depuis des années avec des rapports de pouvoir. Enfin, je veux dire, on n'échappe pas aux rapports de pouvoir, on n'échappe pas à la toxicité que ça a inclus. Et en fait, enfin, je te parle de mon endroit qui est que je suis pas une fanatique. Je pense qu'aussi c'est un peu un truc de ça m'accompagne, c'est quelque chose qui m'illumine, qui me met beaucoup de, je sais pas comment expliquer, c'est physique quoi. Il y a un truc qui est super fort en moi quand j'écoute toutes ces chanteuses, tous ces trucs. Mais par contre, il y a pas un truc d'échec vis-à-vis d'elles. Enfin, je me sens pas en échec de pas pouvoir les rencontrer, je me sens pas en échec de pas pouvoir les voir un jour, je me sens pas en échec de pas leur ressembler, parce qu'il y a aussi beaucoup ça, et j'évoque ça dans l'icône, ce rapport à la norme physique, que n'empêche, c'est hyper inclus par la starification, et que moi, avec mes 1m53 et 66 kilos, enfin, clairement, j'y échappe, quoi. Du coup, non, je pense que oui, je suis pas dans ça non plus, quoi.
Diams, dans sa chanson, elle parle un peu de ce rapport au public, puisqu'elle, une de ses craintes, c'était que son public ne l'aimait plus.
J'adore. Elle a une peur de l'abandon avec son public. C'est trop beau, c'est mon rêve.
Mais tu penses pas qu'il y a un truc aussi que je trouve moi un peu construit? Alors c'est comme une relation. En fait, si t'aimes ça dans tes relations amicales, amoureuses, tu trouves ça peut-être génial hein, de contrôler l'autre, quoi. Mais je trouve ça complètement questionnant autour des notions de pouvoir et de contrôle, quoi.
C'est hyper vertigineux. Mais je trouve ça super vertigineux. Parce que moi, je suis très bien dans ma position de fan. C'est pour ça que je te dis, je suis pas en échec, parce que je me vois pas vivre. Parce que, enfin, quelque part, il y a ce fantasme et ce rêve d'enfant, mais si j'étais une vraie star, genre devant un public qui s'évanouit devant moi, oh, mais quelle panique! Non, mais oui, c'est vertigineux pour moi, je peux pas. Ça me fait pas envie, hein, franchement.
Mais même le coup de l'autographe, enfin, moi, je n'arrive même pas à comprendre ça, en fait.
Un truc de l'autographe, ouais.
Ouais, quelle est l'importance d'avoir.
Mais moi, j'ai grandi avec un frère, c'était une resta, là où j'habite.
C'est pour ça.
Ah ouais, franchement.
Il faisait du rap.
Il faisait du rap, ouais. Ghetto Boys Collabo.
Placement de produit.
Placement de produit. Mon frère, c'était ma fierté d'enfance, quoi.
Okay.
Là, en fait, moi, je pense que mon rapport à la star, il s'est construit aussi par mon frère. Je voyais tous les mecs, là, qui venaient à la maison faire du rap dans le studio. Ma mère, qui était tout à fait OK d'accueillir ça. Mon frère, il faisait la prod tout seul. Enfin, et en fait, à la fin, il faisait les festivals des Aubiers. Ils étaient comme ça au festival d'été. C'était, tu sais, la grosse partie. Genre, c'était, il y avait des gens avant le Ghetto Boys Collabo. Et puis, il y avait le Ghetto Boys Collabo. C'était le concert. Et en fait, toi, t'es là et tu regardes ton frère être aimé par tout le monde et tout le monde qui participe au clip et tout le monde qui connaît le son. Donc forcément, moi, ça m'a mis des grandes paillettes. Et je pense, ce rapport à cette star-là qui m'a fait fantasmer. C'est une star d'un endroit précis, à une époque précise, à un moment précis.
Chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous. Quelque chose d'enfui, de pur, de lourd, qui pèse en nous. À vous chercher la vie, regarde ce qu'elle a fait de nous. On a quelque chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous.
Fils d'esclaves depuis les siècles, je porte la douleur de mon peuple. Représente cette jeunesse qui noie ses soucis dans les peuples. Difficiles sont les parcours, demande à Tupac Shakur. La mort au bout du carrefour, une pensée pour le Darfour. On a tous une douleur qu'on étouffe, une souffrance qui nous bouffe, une voix qui nous dit de foncer. Même quand ça sent le soufre, des corps sans cœur, parfois des cœurs sans corps. Cœur et corps en désaccord, y'a que la mort qui les met d'accord. On vit dans une époque où le sourire est de rigueur. Alors on fait le clown pour camoufler tous ces malheurs. Toujours dans le viseur des soi-disant prêcheurs de bonnes paroles. Dès qu'on finit dans un film où chacun crée son propre rôle, on se libère de la camisole pour embrasser nos rêves. Porte le glaive en temps de grève, car ici c'est marche ou crève. Même en marchant on va tous crever. C'est le rôle de la mort, tu la cherches pas, elle vient te trouver.
On a quelque chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous. Quelque chose d'enfui, de pur, de lourd, qui fait en tout. À vous chercher la vie, regarde ce qu'elle a fait de nous. On a quelque chose de triste, de fort, de fou, gravé en nous.
Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Solène Sels pour son seul en scène, l'icône. Moi, je voulais savoir si ton accomplissement personnel passait par l'œuvre que tu construis.
Ouais, carrément. Bah oui, c'est un petit bébé, quoi. On est fiers de ça et... Mais après, c'est pas que simple, hein. Enfin, là, c'est joli, je suis passée à la radio. Mais en fait, enfin... Non, mais sérieux, j'ai pas d'argent, quoi. Enfin... Il n'y a personne qui me produit, il n'y a pas de scène qui veut prendre ce risque-là pour le moment, en tout cas. Donc c'est quand même une grande quête. Hein, mais c'est clair que je suis très fière et que je ne vais pas m'annuler ou me lisser ou me soumettre un peu à une forme rigide des scènes nationales pour avoir à tout prix de l'argent. Et puis bah, je continuerai à le jouer dans des squats où il fait 3 degrés, où il y a des gens super... qui reçoivent. Et que voilà, il y a des gens qui se lancent dans l'aventure en nous faisant confiance, et merci à mes partenaires pour ça, enfin, au Théâtre des Clochards Célestes qui m'a, et de la Cave Poésie, pardon, de Toulouse, qui m'ont grave permis de me lancer un peu en me faisant confiance sur un début de processus. C'est hyper précieux, en fait, d'avoir cet accompagnement-là parce que c'est des scènes émergentes et qu'il faut les soutenir, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que la culture va mal, et parce que voilà, on est là-dedans. Et donc... Je sais pas c'est quoi le futur de ce spectacle, mais je sais pas c'est quoi le futur de la culture tout court. Donc.
Alors le sous-titre du spectacle, c'est « S'effondrer pour devenir étoile ». Alors quel sens tu donnes à l'effondrement ? Est-ce que c'est une étape, une condition ?
Je pense que Diams m'a aussi apporté. Non, c'est que je pense dans la figure de l'icône, il y a toujours le risque de l'effondrement au bout d'un moment. Genre, t'es dépassé par ta surmédiatisation, par la starification, par ce star system. Du coup, il y a toujours le risque de s'effondrer. Et voilà. Et après, c'est le côté poétique, devenir étoile, poussière d'étoile, l'effondrement. Et aussi, en fait, sincèrement, hein, j'ai trouvé la fin de ce spectacle avant de trouver le titre. Et comme ça termine. Que je ne vais pas,
pas en parler. Spolier, ouais.
Mais il y avait ce côté un peu... Si je cherche à faire vivre ce seul en scène, c'est pour être connu. Okay. Sinon, je pense qu'il y a ce côté-là chez moi. Je suis lion. Faut être sincère, pardon, j'adore l'astrologie. Alors toi, ça doit te dépasser en tant que punk. Mais... Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, astrologie, oh là là.
Mais c'est Noël, je suis prêt à tout, c'est Noël. J'ai dit c'est Noël, c'est... Tu vois,
Non, mais oui, je sais pas. Dans l'effondrement, il y a... Oui, il y a un truc... si j'échoue, je m'effondre. Ben, ça m'arrive beaucoup. Moi, je vis l'échec comme un énorme effondrement à chaque fois. Ça a été très dur, d'ailleurs, d'évoluer dans ce milieu théâtral. Parce que, en fait, globalement, t'es confronté à l'échec, quoi. Enfin, t'as pas d'autre issue que d'envoyer des auditions, on t'appelle, on te rappelle pas, globalement. On se rappelle pas. Du coup, il y a un truc avec... comment tu fais pour toujours t'effondrer et malgré tout avancer. Je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui. Je pense que moi aussi, je suis dans des réseaux très communautaires et qui sont quand même assez queer et tout, et on se pose quand même pas mal de questions là-dessus. Du coup, j'échappe à pas mal de choses. Puis je vais être tout à fait honnête, je passe pas trop d'auditions. Quand je vois que c'est des personnes que je sais, ça va créer du déséquilibre pour mon intégrité de comédienne, j'ai appris à me protéger, à me dire je fuis. Je préfère être... encore une fois, en galère que de me compromettre. C'est pour ça, pour dire, je tiens pas de temps à ce truc de star.
Ton seul en scène parle aussi énormément d'amour. Mais qu'est-ce que c'est pour toi l'amour, Juste ça, parce que c'est facile à répondre si je te demande qu'est-ce que c'est pour toi
l'amour.
Ça paraît simple, quoi. Pourtant, c'est Céline Dion, je suis sûr qu'elle en parle très facilement, Lara Fabian aussi, tu vois, c'est assez simple dans les chansons.
Je peux te chanter une chanson, si tu veux. J'y crois encore. Non, écoute, je sais pas trop ce que c'est, mais ça... l'amour, c'est faire une crise d'angoisse dans la même direction, c'est pas mal. Je trouve que ça y répond quand même.
Oh, plus tard.
Non, c'est un sentiment qui... L'amour, pour moi, je le mets pas qu'à l'endroit de la relation intime avec une personne. Je le mets un peu dans tout. Et moi, je suis quelqu'un qui... J'ai besoin d'amour pour avancer. J'ai besoin que ce soit carrément central dans ma vie pour avancer. Sinon, je crois pas que j'ai un moteur. Enfin, ça me donne pas trop envie de me réveiller globalement, quoi, quand il y a pas trop d'amour et que ce soit... Ouais, c'est... Mais du coup, ça va, je me réveille parce que je suis amoureuse de mes amis, je suis amoureuse... Mais en tout cas, c'est clair que ça habite le processus de création. Toutes les chansons dans la pièce, enfin, c'est beaucoup de chansons d'amour, il y a beaucoup de ça. Enfin, c'est clair que c'est une thématique dominante.
Est-ce que tu penses que c'est un endroit à inventer?
Ouais, carrément. Oui, complètement. Bah, en tout cas, tu le réinventes à chaque fois. Enfin, moi, je sais que je suis jamais amoureuse de la même manière. Enfin, c'est un peu des phrases bateau que je dis, mais c'est vrai, j'aime pas de la même manière à chaque fois. Enfin, c'est un nouveau truc, c'est un truc qui s'invente à chaque fois. Mais comme quand on découvre... Enfin, par exemple, là, je suis en train d'écrire un recueil. J'écris pas du tout de la même façon que j'ai écrit l'icône. Et l'amour que je mets dans cet acte d'écriture, genre d'être en mode oh, j'aime écrire, ça me vient pas du tout de la même façon que l'icône. L'icône, clairement, c'est venu en mode deux mois, j'ai fait une phase maniaque là-dessus et j'ai dégommé, genre j'ai écrit comme ça la première version en moins de deux mois en fait. Je pense que j'ai fait ça très vite alors que là c'est un acte genre d'insomniaque où je me réveille la nuit à 4 heures et j'ai l'illumination et je me réveille. C'est horrible, ça me dégoûte de dire ça, mais c'est vrai, j'ai ce truc-là et du coup j'aime écrire dans des conditions de fatigue extrême à l'endroit où l'icône, c'était pas du tout ça le processus d'écriture et d'amour de l'écriture. Donc oui, ça se réinvente à chaque fois. Que oui, bon, on va parler de relations amoureuses à deux. Plutôt si la personne avec qui je suis arrive à être anxieuse en même temps que moi pour les mêmes questions, je vais me sentir en sécurité. Enfin, là, on est dans une époque où c'est quand même hyper technique, le fascisme. Enfin, je dis pas que ça a jamais été, mais je pense qu'on avait moins accès à ça avant. L'angoisse va faire partie de notre quotidien. Enfin, moi, je suis déjà super anxieuse pour les prochaines élections. Et je pense que la plupart, on est là-dedans. Et du coup, oui, c'est clair qu'il va falloir qu'on collectivise nos anxiétés à deux et qu'on fasse une petite résistance dans le fait de rester sous la couette et s'aimer. Malgré tout, parce que moi, je crois que... On va pas pouvoir faire que la révolution, ça marche pas a priori, donc il va falloir trouver comment chercher l'amour dans tout ça.
La méthode directe, comme l'action directe, reste une nécessité, un peu comme des punchlines, d'où aussi tout l'univers musical qui t'accompagne, et ta playlist, il y a Diams, il y a Nino, bon, il y a Jean-Jacques Goldman, bon, ça c'est un peu une faute de goût, mais je pense que...
C'est lié à... J'ai une petite anecdote là-dessus parce que Jean-Jacques Goldman, alors c'est pas une faute de goût du tout, je suis absolument fan déjà. C'est drôle parce que je pense que juste comme ça, un prof très dominant, enfin voilà, d'un milieu culturel bourgeois, m'avait dit un jour justement c'est une faute de goût Goldman. Et je pense que je l'ai remis à sa place en 2-2 en lui faisant un peu de la leçon de classe, enfin populaire, et qu'il s'était senti un peu morveux et qu'à la fin il avait reconnu et ça m'avait beaucoup touchée et qu'il m'avait dit ouais, je suis désolée. En effet, c'est complètement du classisme ce que je viens de faire. Et voilà. Et un jour, je me suis réveillée et ma mère m'avait envoyé du Jean-Jacques Goldman. Et pour l'anecdote, ma mère n'aime pas Jean-Jacques Goldman. Pas plus que ça. Plutôt, elle, c'était Balavoine, en fait. Ouais. Mais par contre, ce jour-là, ma mère m'a envoyé Puisque tu pars de Jean-Jacques. Et elle m'a dit je viens de me réveiller en pleurant ce matin. Et cette chanson, elle m'évoque vraiment ton histoire, ta vie et les choix que tu as fait. Après ça, je l'ai écouté et ça m'a fait beaucoup pleurer parce que cette chanson, on la met souvent aux enterrements, quand il y a une mort, quand il y a un mort. Bon, on l'écoute jamais pour dire ouais, je suis une personne qui est en train de faire une extraction sociale et qui s'en va loin de sa famille et qui part pour des études et qui part pour essayer de faire quelque chose. Essayer de devenir quelqu'un, ou en tout cas dans l'idée que j'avais à l'époque. Et maintenant, enfin voilà, elle a habité ce spectacle dès le départ parce que j'étais en mode je veux qu'elle en fasse partie, parce que j'ai fait que pleurer du coup à l'écoute de cette chanson. Après, j'étais encore plus, mon amour pour Jean-Jacques Goldman s'est décuplé quoi. Du coup, voilà pourquoi elle existe cette chanson Et juste pour cette chanson, il faut venir voir le spectacle. Voilà, merci Mélissa Mambo Bangala, merci Jessica Guillot. Merci Flora Bernard-Grison d'avoir fait confiance à ce texte d'abord et d'être venue. Merci à Eve Mago qui m'a grave accompagnée et qui a fait partie complètement de cette lancée. Et merci à Mélanie pour la lumière, à Marsu, à toutes les personnes que j'aime fort globalement et qui ont toujours été là. Et voilà. Et merci maman surtout. Sabine Moreau, t'es ma reine.
Et merci à toi alors d'être venu. Enfin, tu étais notre cadeau de Noël. Et nous, comme cadeau de Noël, on a Jean-Jacques Goldman.
Et voilà.
Avec cette formidable chanson. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2026? C'est chaud ça. Hein.
Ah ouais, c'est chaud. L'amour.
Allez. Ça, voilà, ça c'est la punchline de fin qui va bien quoi. Souhaitons-nous l'amour. À très bientôt.
À très bientôt.
Salut, ciao et encore merci, bye bye.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver. Intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
Mais t'as des connexions avec Marseille?
Avec Marseille?
Ouais.
Oh, quelques-unes, j'ai des amis, plus, quoi. Ouais. J'aime bien la mer.
La mer, tu
la
parles
mer, de... La mer, la canebière. Ah non, je vais pas parler avec toi.
Non, en vrai, c'était un peu trop. Bon, alors, une nouvelle fois, alors, c'est Julien, si tu nous écoutes. Après Jean-Jacques, Maria-Carré, Jules. Parce que c'est Julien, Jules.
Jules, c'est Julien.
Ouais. Ouais,
mais c'est... ça, j'avais pas besoin de savoir.
Ah, je suis désolé, ouais, c'est hyper déceptif, je sais. Ça gâche un Noël. Mais,